Ouvrez grand vos oreilles. Faustocopie par Parent ON, soirée spéciale et inouïe de 22h à minuit. Antoine Chao.
Hommage à Yann Parent ON, donc l'un des plus prestigieux créateurs de radio en France. Oui, créateur parce que la radio est aussi un art, quand on veut bien s'en donner les moyens. Et Yann Parent ON écrivait, peignait ou même sculptait avec le son. Souvent pour les ACR, les ateliers de création radiophonique de France Culture. C'est pour ça qu'on appelait le tailleur de son, comme son père adoptif était tailleur de pierre à l'île Grande, dans les Côtes d'Armor. Yann Parent ON nous a quittés en 2005, le 28 février, à l'âge de 69 ans. Mais alors pourquoi lui rendre hommage aujourd'hui, 3 juillet 2022 ? Parce que c'est le début du Tour de France et que Yann était passionné de cyclisme. Il a beaucoup documenté le Tour de France et le Paris-Roubaix, l'enfer du Nord dont les pavés viennent en partie de son île grande natale et que son père avait taillé quelques-uns de sa main. Une histoire de famille et de taille. Alors on va écouter ensemble deux œuvres inédites de Yann Parent ON sur Faustocopie, qui a gagné deux fois le Tour de France en 49 et 52, sept fois le Tour d'Italie et même une fois le Paris-Roubaix en 1950. Mais je vais laisser Yann Parent ON vous en parler du grand Fausto, lui rendre hommage par une création radiophonique qu'il a terminée juste quelques mois avant de poser son agra et de nous quitter. Moi, c'est à Yann que je veux rendre hommage ce soir et vous présenter le bonhomme que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'ai commencé à travailler en 2001 comme réalisateur à la Basse J'y suis. Alors avant d'écouter en première mondiale le vélo de Fausto, monté et mixé en 2004 par Yann Parent ON dans la fameuse cellule 208 avec la complicité de Claude Giovannitti, tout de suite quelques paroles de personnes qui ont connu Yann et travaillé avec lui.
Tu vois, c'est sur un petit bout de papier, il y avait des tas de choses dedans. Claude, je suis à la 208, Yann. Où voulais-tu qu'il soit ? C'est toujours à 208. Je m'appelle Claude Giovannitti. Je suis rentrée à la radio en 73, fin 73. C'est comme ça que j'ai connu l'équipe de L'Oreille en coin, qui était une grande émission du week-end sur France Inter à l'époque. Et que j'ai connu Yann, puisqu'il était un preneur de son et mixeur de cette émission. Et puis je l'ai revu après dans des studios de France Culture, enfin de mixage et d'enregistrement de France Culture. Tout est lié, quoi. C'est-à-dire, Yann et la radio, c'est passé, c'est devenu très affectif très vite. J'ai connu Yann d'abord par son nom, qui a été prononcé par des personnes. Et j'ai trouvé ce nom absolument magnifique, quoi. J'ai trouvé ce nom très très beau. Puis après, j'ai vu arriver un marin avec des roues flaquettes, avec des pulls marins, c'est pour ça que je dis marin, qui était plus ou moins, plutôt plus que moi, complètement déchiré aux manches. C'était pas de la nervosité, je sais pas. En tout cas, il accrochait ses manches de pull comme ça avec ses mains et il tirait dessus, quoi. Donc ça faisait des trous. Il écoutait très fort et il était très tendre. Voilà.
Moi, je suis arrivé en 1992. Yann, quand je suis arrivé, faisait notamment les papous dans la tête. L'équipe technique était composée du chef opérateur, à savoir Yann, et puis d'un opérateur qui s'occupait des magnétophones. Il y avait 6 magnétophones dans le studio. On mettait les bandes, on reprenait, etc.
Tu te présentes ?
Bertrand Durand, j'étais opérateur du son, chef opérateur du son. Et alors Yann, il faut savoir déjà qu'il écoutait très très fort. Quelque part, c'est pas illogique, parce que si on veut vraiment mixer correctement, on est obligé d'écouter fort pour une question de rapport de fréquence. Et si on veut que toutes les fréquences soient équivalentes, il faut mixer un certain volume. Alors lui, il écoutait très très fort. Alors déjà, ça c'était assez surprenant quand on travaillait. Et donc moi, j'étais monteur, quoi. Donc je calais les magnétos, on enregistrait, je revenais en arrière, je faisais les points de montage, etc., etc. Et Yann, c'était quelqu'un de très timide et qui avait une toute petite voix. Et il parlait tout doucement. Et il était extrêmement prévenant. C'était vraiment l'artisan et le maître artisan. C'est-à-dire, il venait vers toi et disait « Bertrand, c'est bien ce que tu as fait là, mais tu vois, si tu le fais comme ça, ce sera encore mieux. Et regarde, je vais te montrer. » Et c'était vraiment une forme de compagnonnage qu'on connaît bien à Radio France. Et lui était vraiment là-dedans, mais toujours de façon très très douce, très réservée. Et on avait un énorme respect pour Yann Parent ON. Et quand Yann Parent ON vous transmettait quelque chose, évidemment, c'était précieux. Et moi, j'ai d'excellents souvenirs de Yann. Et sinon, quand on passait au 5 cinquième étage de la radiale, bah, il y avait la cellule 208, c'était la cellule de Yann, et souvent la porte était ouverte, et souvent, bah, il écoutait, ou il montait, et donc on entendait, on passait devant, on passait une tête, on entendait ce qu'il faisait, bah, c'était toujours assez magique, quoi, d'introspection sonore, quoi, la manière dont il imaginait ce qu'il enregistrait, ce qu'il en sortait, enfin, c'est formidable, quoi. Et avec Claude Giovannetti. Donc, voilà, ils travaillaient ensemble, voilà, ils étaient compagnons de vie. Et pareil, Claude, voilà, quelqu'un d'extraordinaire, tellement adorable et grande réalisatrice de France Culture, Claude Giovannetti.
Allô, Claude ?
Oui, Antoine ?
Claude Giovannetti.
Pour moi, c'est vraiment l'émission testamentaire. Enfin, Yann savait ce qu'il faisait. Et en fait, je le revois fermer la porte de la 208. Et la 208 allait être détruite quelques jours ou quelques semaines après, puisque c'était déjà les travaux à la maison de la radio, et la radiale D du 5e allait être condamnée. Elle était déjà condamnée d'ailleurs. Donc c'était vraiment la fin de tout, quoi. Et la genèse de l'émission, en fait, elle remonte à l'enfance de Yann. Hein. Je crois qu'il a très très vivement souhaité être coureur cycliste. À une époque, il racontait à ses enfants, à nous, que sur son petit vélo, il grimpait la côte de Pleubeur-Baudou, qui est une côte effectivement assez pentue, et qu'il arrivait même à doubler le quart. Donc, je pense qu'il a dû rêver enfant très très fort de record cycliste. Il avait évidemment ses héros, dont Fausto Coppi. C'était aussi un aspect breton très fort de son enfance, parce que il apportait les nouvelles de l'arrivée du Tour de France au tailleur de pierre, qui n'avait évidemment pas de transistor, de choses comme ça. Et donc, il était le petit go-between, enfin, qui allait apporter les nouvelles. Il allait même en vélo depuis l'île Grande jusqu'à Mur de Bretagne. Ne me demande pas combien de kilomètres ça fait. Pour voir passer le Tour de France. Donc c'était vraiment le cyclisme était très très important dans sa vie. Enfin, très.
Juste droite, il est actuellement dans l'ambulance et va être dirigé vers l'hôpital le plus proche.
Nord.
Allez Lina.
Allez, allez, allez.
Je crois que dans une course comme ça, la stratégie, elle est. Elle n'a pas 50, hein, je crois.
Une des choses qu'il y avait à l'époque, et qu'il y a peut-être beaucoup moins maintenant, c'est que Yann était un type qui est arrivé à un degré très très fort de création, de compétences techniques, en n'ayant fait strictement aucune étude pour ça. Donc il a appris, comme on dit, sur le tas, il a fait ses classes en. Voilà. Et moi, il m'avait appris aussi, il m'a dit, mais arrête d'avoir besoin de quelqu'un pour faire du montage et tout ça. Il m'a donné une paire de ciseaux, un truc, il m'a ouvert un truc, il m'a dit, bah, toi, on fait comme ça. Et puis moi, en l'espace de 2-3 jours, je savais monter.
Christian Rosset, Yann Parentoen, l'art de la radio, c'est toi qui as dirigé ce livre sur Yann, quoi, qui est un peu la référence sur le travail de Yann Parentoen.
Le hasard fait que quand Yann est mort, c'est-à-dire en 2005, par hasard, j'ai retrouvé Marc Jacquin.
Aux éditions Fenurgianova, hein, donc dirigé par Marc Jacquin.
Et je lui dis, tiens, si tu as toujours des projets d'édition autour de Yann, puisqu'il avait publié Lulu, où j'avais écrit la préface, j'aimerais qu'on fasse un vrai hommage à Yann, c'est-à-dire à la fois d'hommage, mais aussi de portrait de Yann. C'est-à-dire théoriquement, entre le CD qui reproduit Les Sconils, qui est une œuvre très importante, la première œuvre où il a eu le prix italien et qu'il a consacré comme, non plus comme technicien qui s'amuse à faire des petites choses de temps en temps, mais comme véritable auteur radiophonique. Et puis donc il y a Les Sconils dedans. Il y a eu un film de Pilar Arcila qui était remarquable, qui avait été fait aussi, où elle avait filmé peu avant sa mort à l'île Grande, quand il s'était retiré là-bas. Et donc on avait un matériau absolument formidable, quoi.
Mais tu le places dans la lignée de Pierre Schaeffer ?
Non,
tu le placerais où, quoi ?
Il invente justement cette possibilité de ne pas être justement dans une continuité. Il a compris ce qu'était la radio en tant qu'outil. Il disait, la radio, on dit que c'est de la radio, mais c'est des gens qui causent, ou des musiques qu'on passe. C'est vrai que la radio, c'est beaucoup ça. Lui, il disait, non, c'est pas du tout. La radio, c'est à partir du moment où on a un magnétophone, on a des micros, on enregistre quelque chose, et après, on peut tailler et coller, et on peut mélanger, et c'est ça, la radio. Mais c'est pas parce qu'il aurait été rencontré Pierre Schaeffer qu'il aurait eu l'idée. Il est très singulier, mais simplement, n'oublions pas qu'il est technicien de radio et technicien souvent pour des directs et des magazines. Donc tout le monde passe devant son micro. Et lui, il écoute toutes les personnes qui vont passer à France Culture essentiellement, mais aussi à France Inter. Donc il disait, j'ai pas besoin de faire des études, j'ai pas besoin de lire le journal, s'il lisait L'Équipe quand même, mais il lisait Libé aussi. Enfin, il est beaucoup plus cultivé qu'il faisait semblant de l'être, mais par contre, il emmagasinait tout ça. Mais il écoutait aussi les sons du dehors, il écoutait, quand il suivait le Tour de France, il enregistrait non seulement le passage du Tour, mais il enregistrait les gens qui le regardaient, il enregistrait les équipes, il enregistrait tout le monde, il écoutait tout le monde. Donc on disait pas, c'est un disciple de Schaeffer ou c'est un type qui a tout compris à Bertolt Brecht, tu vois. Non, c'est pas ça. Je crois que la première fois qu'il a enregistré ses filles en train de jouer, quand elles étaient toutes petites, et qu'il s'est dit, en montant, en faisant ça, ça fait un truc. Il l'a fait au culot, il a fait un truc, et quand on l'écoute, on se dit qu'il est déjà là, quoi. Voilà, et c'est comme un peintre qui sort pas des beaux-arts, c'est comme un écrivain qui a pas son bac, j'en sais rien. Moi, je trouve ça formidable. Je le situe vraiment au plus haut à ce niveau-là, parce que à partir de là, il fait un truc et des gens qui disent c'est bien, il a fait une émission sur Van Gogh. Non, il a fait une émission de Yann Parent-Thoen à partir de certaines de ses obsessions. De même que Lulu, la femme de ménage, c'est parce que comme il était le premier arrivé, moi j'arrivais tôt aussi. Lui était à 208, moi à 271, on était à deux pas. Hein. Moi, je la voyais tout le temps, moi je la voyais, elle était sympa et tout. Il n'y a que lui qui dit, je fais une émission à partir d'elle, à force de la voir. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui est comme lui, qui vient de province, qui est venu sur Paris. Donc, ça collait parfaitement, mais ça, c'est complètement Yann.
Alors, Maurice, comment
ils vont
arriver?
Oui,
ils arrivent. Bon, 5.
Là-bas. Le pasteur. On descend les uns derrière les autres, parce qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui vont travailler, qui vont faire des ménages. Hein. Ce n'est que des gens qui font le ménage le matin, qui viennent. Et on arrive là, il est 6 heures.
Bonjour.
Et les chefs qui sont là. Qui vous font signer sur une feuille.
Regardez bien.
VIRGOULAY. Votre nom, votre heure d'arrivée. Virgoulet. Un nom du pays, là-bas.
Voilà.
Et voilà.
Tu veux des sacs?
Oui. On prend nos clés et on s'en va. Amélie Lucienne. On m'a toujours appelée Lucienne, même étant petite. Et toujours je le fais.
Bah oui, mais...
Lulu.
On découvre la maison, c'est-à-dire que Lulu, pour moi, c'est les portes qui s'ouvrent et le fait de déambuler, puis on imagine la déambulation sur la courbure, quoi. C'est ça, et ça, c'est extrêmement bien rendu par l'œuvre de Yann Parent-Thoen. J'ai un faible aussi, même si c'est peut-être pas ce qui a été le plus prisé chez lui, mais pour Onnagra, il enregistrera. Voilà. Mais c'est le côté historique aussi. Puis lui, voilà, ça lui tenait à cœur. C'était son instrument. C'était son Stradivarius. Bah voilà, c'était l'ensemble Nagra, Microshops et Parapluie, quoi, je dirais.
Bonjour.
J'ai connu Yann Parent-Thoen quand j'ai commencé.
Daniel Mermet.
Quand j'ai commencé à l'oreille en coin, alors...
77.
Et voilà, on s'est tout de suite entendu, quoi. Il parlait pas tellement théoriquement, il faisait, il était vachement perfectionniste, il chiadait. On sait ce qu'il a fait, il n'était pas le seul, mais il a poussé plus loin la maîtrise des sons. Voilà, il a utilisé et développé l'expression du langage sonore. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Yann, n'était pas seulement un esthète pour les ateliers de création radiophonique et tout ça. D'abord, il bossait pour l'Orient Coin, donc c'était des émissions très populaires. Et puis, il aimait tout dans la radio. Attention, il aimait tout, hein. Il aimait les infos, il aimait vachement les reporters sportifs. Il les connaissait, il était pote avec eux, il adorait ce genre de trucs. Moi, j'ai appris vachement le métier à ce moment-là avec lui, grâce à lui. Et c'est à la fois savant et populaire, voilà. C'est le terme savant et populaire, ça correspond tout à fait à son art, un mode d'expression, un langage.
Merci aux amis Yann Parentoen de L'Oreille en Coin et d'ailleurs. On continue l'hommage à ce grand auteur de radio qui a inventé un langage, son langage, une manière de raconter le monde par le son. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Il ne s'agit pas que Yann soit l'arbre qui cache la forêt. Mais alors pourquoi cet hommage 17 ans après que Yann nous ait quittés? C'est encore une histoire de famille. Il se trouve qu'au mois de février, j'ai rendu un petit hommage à Yann dans mon émission « C'est bientôt demain ». En parlant d'écologie sonore et de son œuvre questionnaire pour l'Esconil, qui lui a valu le prix Italia en 1980 et l'a révélé dans ce qu'il faut appeler l'art radiophonique. C'était pendant le festival Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute à Brest, un peu au-delà de l'île Grande et de l'Esconil. Une histoire de territoire donc aussi. Et à ma grande surprise, et pour le plus grand bonheur de nos oreilles ce soir, j'ai reçu un coup de fil de sa fille, Armelle Parentoen, qui m'a invité à venir lui rendre visite à l'île Grande, dans la maison ronde que Yann avait fait construire une deuxième maison de la radio, la sienne.
Oui, bonjour, je suis Armelle Parentoen Enguerrand. Je vous appelle parce que j'ai écouté l'émission d'hier et vous parliez beaucoup de sons de radio et entre autres de Yann Parentoen. On avait été très touchés par ça, voilà, je voulais vous le dire. Et c'est vrai qu'on a, avec ma sœur, on a refusé que les émissions de papa soient diffusées parce que c'était compressé le son. Mais c'est vrai que, en tout cas, si vous voulez les diffuser, il n'y a pas de problème, quoi. Parce que mon père, il voulait plus diffuser et il en a souffert à la fin de sa vie de plus pouvoir diffuser. Et on a été un peu ses porte-parole, en fait, longtemps, quoi, avec ma sœur. Et c'est vrai que maintenant, je regrette un peu que, en tous les cas, si vous avez envie de diffuser des émissions, on est d'accord avec ma sœur. Et il y a surtout, surtout un inédit sur Faustocopie qu'il a terminé juste avant de mourir. Nous, on a les originaux des grosses bandes. Là, un inédit, c'est quand même con que ça soit pas diffusé, mais la qualité est bonne maintenant, m'a-t-on dit peut-être. Je sais pas.
Merci de votre confiance, Armelle et Gwenola. De votre gentillesse de m'avoir si amicalement confié ces bandes magnétiques inédites de votre père que l'on va écouter ensemble ce soir. Merci aussi de m'avoir prêté son fameux parapluie spécial prise de son par vents et marées en bord de mer ou bord de route du Paris-Roubaix que j'ai eu le plaisir de tester sur la plage venteuse de Plumeur-Baudoux.
Ouais, c'est quand même assez magique. Je suis à l'île Grande et j'ai le parapluie de Yann Parentoen ouvert. Ce qui me permet de protéger les micros du vent.
Et pour cet hommage à votre père, selon son souhait, la compression d'antenne est désactivée ce soir. Merci à Emmanuel Perrault, responsable technique de France Inter. Alors Avanti, le vélo de Fausto, Yann Parentoen, 26 minutes 26.
Bien, amour. Il docteur Coppi, comme dit.
Voilà, il dottor Coppi, come je dis moi.
Dunque, lui è venuto nel 49, Coppi, perché voleva rendersi conto di che cosa fosse la Parigi-Roubaix.
Donc il est venu en 49, parce qu'il voulait se rendre compte de qu'est-ce qu'était la Parigi-Roubaix.
Perché dice, non puoi andare ad una Parigi-Roubaix in base alle descrizioni che mi hanno fatto e pretendere di vincere al primo anno.
Je peux pas aller courir une Parigi-Roubaix sur les descriptions comme on en a fait et prétendre gagner dès la première année.
La fortuna a voluto che suo fratello vincesse.
La chance a voulu que son frère a gagné Paris-Roubaix.
Ex aequo con Maé. François Maé. Non, André Maé.
Ex aequo avec André Maé.
Coppi, allora io mi ricordo che quando tornò disse è una corsa che posso vincere.
Et donc Coppi est rentré, il a dit c'est une course que je peux vaincre.
Quindi l'anno venturo io mi preparerò per vincere la Roubaix.
Et l'année prochaine, je me préparerai pour vaincre Paris-Roubaix.
E infatti incominciò lui a svolgere un lavoro molto intenso.
Il a fait un travail très intense.
Con lo scatto fisso.
Voilà, il a fait ce travail très intense avec le scatto. Alors, quelle est cette partie? Il va l'expliquer après, apparemment.
La catena qui va con la ruota fissa, col pignone dietro fisso.
Voilà, la chaîne qui va avec la roue fixe, c'est-à-dire avec le pignon arrière fixe.
Non con la ruota libera, col cambio di velocità.
Pas la roue libre qui a le changement de vitesse.
Fixe.
Di modo che...
di modo che era continuato sempre a pedalare.
De sorte qu'il continuait tout le temps à pédaler. Il est jamais en roue libre.
Et mi ricordo allora che lui fece.
Et je me souviens alors qu'il avait fait presque 8000
km prima di allenamento,
avant
prima ancora di fare
avant
la
de faire la Milano-Sanremo.
Et...
Je savais pas que Coppi avait un frère qui courait.
Valentina Vitale, traduit Rino Negri.
Après.
Journaliste écrivain.
Qu'est-ce qu'il y avait?
Aveva già nella testa il punto dove andare.
Oui, lui, quand il est venu, il avait déjà dans la tête le point où il allait s'en aller, c'est-à-dire le point où il allait s'échapper, je suppose. Ouais. Fausto Coppi. Qu'est-ce qu'il y a juste après?
Oui, era la salita di Dolance.
Oui, la montée des Dolance. Doulance. Il voulait s'échapper à partir de la montée de Doulance. Et là, il s'est échappé. Mais quand il est revenu, je me souviens qu'il m'a dit « Mon cher, la Paris-Roubaix, c'est une course qui raccourcit la vie d'un homme. »
Caro mio, la Parigi-Roubaix est una corsa che accorcia la vita di un uomo. Perché?
Parce que
è faticosissima,
elle est très fatigante.
C'est un dispendio nervoso spaventoso.
Une perte nerveuse, un
Uno
stress.
Guarda, ti dico proprio testuali parole, lo ricordo perché l'ho scritto più volte.
C'était vraiment ces mots à lui.
Mi diceva, è una roba, però dice, se un corridore vuole essere un campione e non cerca almeno una volta di vincere la Roubaix, non è un campione.
Mais en même temps, si un coureur veut être un champion et qu'il ne cherche pas au moins une fois de vaincre la Paris-Roubaix, c'est pas un champion. En italien, on dit la Parigi-Roubaix, la corsa del Parigi-Roubaix.
Qu'est-ce que vous voulez?
Est-ce que je peux avoir 3 secondes de roue libre? Quelqu'un pour me la faire tourner?
Combien?
Me faire tourner un petit peu le son du vélo de Fausto.
Là, le son d'une roue libre normale. Hein. Le vélo de Fausto.
On peut faire de la musique avec
le vélo de Fausto.
Puis il y a peut-être le frein qu'on peut faire fonctionner en le faisant tourner, en bloquant le frein
du vélo de Fausto.
SC enregistrement pour Clermont, vélo Fausto Coppi, samedi 6 juillet 2002.
Et alors moi il me l'a donné quand je suis rentré chez Bianchi en 52. Donc j'ai été directement chez lui à Novi Ligure. Alors ce vélo qui pour lui était une relique, il s'en servait plus. Parce que quand il a regagné en 52 le Tour, et 52, il était revenu au derrière à câble. Et là, il m'a prêté ce vélo. Et moi, ça m'a amusé. ça m'a amusé. Et j'ai usé le dérailleur, j'ai usé les roues, et j'ai plus retrouvé le matériel. Je l'ai plus retrouvé. Et alors, je l'ai amené en Italie, et ils m'ont fait la réplique exacte du vélo avec les pièces d'origine de 1950. Ils me l'ont remis de plomb.
Pardon, je cherche l'endroit où il est exposé le vélo de Fausto Coppi.
Il est en haut, je crois, le vélo.
Il est en haut, il est remonté par l'escalier là-bas.
Seulement, vous comprenez, un vélo, c'est pas un tableau. Il y mettait encombrant. Parce que tout le monde le touchait, tout le monde. Et moi, ce vélo, j'en étais devenu amoureux parce que c'était un chef-d'œuvre de technicité, de beauté. La couleur Bianchi, ne serait-ce que la couleur Bianchi, c'était beau et tout. Mais j'avais peur comme les gratines, j'avais peur comme les squintes. Je dis, si on les squintes, il est dévalué. C'est le bleu Bianchi, comme le rouge Ferrari. C'est un rouge que personne n'a rien à faire. Le bleu Bianchi, c'était moitié bleu ciel, un peu vert, d'une beauté, le bleu Bianchi.
Est-ce qu'il y aura la présence de Raphaël Gemignali?
Ah, je sais pas, par contre, il faudra voir avec Maître Vassy pour ça. Suivez-moi, passez.
On avait les mêmes tailles. C'est pour ça un peu qu'il m'avait pris dans son équipe, parce qu'il y avait le Tour d'Italie à gagner en 52. Il a considéré que comme je pouvais moi grimper à ses côtés dans l'école, qu'un 4 pépins pour lui donner un vélo qui était exactement la réplique du sien.
Allez-y.
Je savais chez Bianchi, on vous donnait des vélos pour 10 ans.
Mais c'est 14h, hein. Bon, ça devrait être rapide la vente, hein.
Oui, oui, oui. Parce qu'on va pas perdre des décorum.
Allez-y, allez-y, je vais ouvrir, pardon.
Allez-y, allez-y.
Ça va se passer ici à... On va commencer, oui, à 14h et... À 14h05, 14h08, ça sera fini. Hein. On va voir 2-3 personnes et puis c'est quand même très particulier. Hein. C'est un vélo qui ne peut rejoindre à la limite qu'un musée ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le rétropédalage. Ben, on a la photo d'ailleurs, quand ils viennent, ce Paris-Roubaix, où on voit les deux manettes. C'est très important, on voit les deux manettes. Mais c'est pas comme la guitare électrique de Jimi Hendrix. C'est un type qui est mort il y a 50 ans, c'est lié à la dévotion. Bon, alors, moi je vais pas acheter un vélo de Fausto Coppi parce qu'on peut pas monter dessus, parce que ça se fait pas. Donc on sait pas du tout comment ça peut réagir.
Curieux comme moi, déjà.
Vous êtes curieux?
Oui, oui, curieux, parce que mes moyens me permettent pas.
Il sera peut-être pas cher, hein?
Ah, je sais pas.
Il sera peut-être pas cher? Pour le moment, j'en ai un client qui est un Américain. Pardon ?
Est-ce que je peux aller de plus près ?
Oui, vous passez par en dessous, vous ne me le faites surtout pas tomber.
Non, non, mais je veux pas vous le faire tomber.
Un Américain de San Francisco qui est le plus grand collectionneur au monde d'objets sur le cyclisme. Mais il y aura peut-être un autre musée qui voudra l'acquérir, mais c'est de la légende. Ça, il devrait faire au moins 10 000 euros. Et si on a de la chance, s'approcher des 15 000. S'approcher des 15 000.
Je peux photographier?
Oui, 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 oui. Gemignani avait brisé les roues, la selle.
Il y avait le particulier qu'il avait un derrière qui avait été la première invention à Campagnolo. Il avait fait fureur, hein, techniquement, au début en 1946, parce qu'il n'y avait pas de derrière à câble encore. Il était un peu compliqué, mais il fallait un coup de main. Hein. Parce qu'il fallait débloquer la roue. En même temps, il y avait une manette où il fallait faire un rétropédalage, choisir sa vitesse, et rebloquer la roue. Et ça prend plus de temps à expliquer que le faire. Comme Paris-Roubaix, il y avait des chutes, et que le dérailleur, quand tombé, allait dans l'arrière, il a voulu ne pas prendre de risque et prendre ce dérailleur, d'autant plus dans Paris-Roubaix plate, la route. Il n'y avait pas beaucoup à changer de vitesse.
La tête là où tout est expliqué.
Donc il a pris ce dérailleur pour plus de sécurité.
Merci.
Ce système de rétropédalage a été en vigueur entre 46 et 47. En 47, tout le monde l'a abandonné parce que le dérailleur à câble inventé d'ailleurs par Campagnolo était beaucoup plus pratique. Il évite de faire du rétropédalage. Le dernier à l'utiliser est Bartali en 48 qui gagne le Tour de France avec ce type de dérailleur, mais on n'est pas certain qu'il ait fait tout le tour, notamment la montagne avec ça. Et c'est abandonné. 48-49, tout le monde est en dérailleur à câble. Mais pour Paris-Roubaix 50, que Coppi va faire, Coppi décide de reprendre ce vélo pour une raison très simple, c'est que sur Paris-Roubaix, avec les pavés, on déraille énormément.
Ah oui.
Là, la chaîne est beaucoup plus tendue et on déraille pratiquement pas avec ça.
Non, on
ne déraille pas. C'est une espèce d'astuce extraordinaire. Et il ressort son vieux vélo, qu'il n'utilise plus depuis 3 ans, et il fait Paris-Roubaix avec, et il gagne un Paris-Roubaix d'anthologie.
Comment il l'attendait?
C'est simplement avec la roue,
C'est contre nature.
C'est contre nature.
Pour un cycliste, Géminiani dit que se casser la figure, il se ratait à tous les coups.
Le tendeur là, c'était simplex.
Voilà, tout le monde est venu avec
voilà,
vous êtes venu avec vos photos.
Oui, les photos d'époque.
Attendez, est-ce qu'on voit.
Oui, mais c'est ça, mais là, il a entièrement été rénové. Hein.
Oui.
Maintenant, c'est pas les freins comme ça.
J'en avais des
comme ça. Je sais pas.
Si.
Donc, bien clé, ça c'est en 50, ça.
Vous l'avez vu courir, non, Pierre?
Non, j'ai
moi j'ai vu courir.
Ah ben moi j'ai vu courir,
oui. J'ai vu en 1951. Ah non, en 52, j'ai vu. J'ai vu en 52 quand il a gagné au Puy de Dôme. J'étais sur la route, pour applaudir. J'avais 17 ans. Ah non, 18 en 52. Parce qu'il avait, il avait un petit corps et des grandes jambes. Des poumons et un cœur. Mais c'est ce qui faisait sa force. Hein. Et alors, nerveux, c'était un type sec, très nerveux.
C'était un phénomène.
Il a fait les dernières 50 km tout seul, quoi, Paris-Roubaix.
Il est né en quelle année, Faustocopie ?
25, je crois. Né en 19.
Pardon ? C'est je sûr, pense c'est 19.
Oui, mais 19. C'est certain. Certain, 19.
Le vélo de Fausto.
Hier, les gens ont photographié toute l'après-midi, alors que ça fait 15 ans que je suis ici. On m'a demandé deux ou trois fois de photographier un objet. Mais je vais vous dire que... Non, mais c'est là, on est comme à Lourdes. C'est comme à Lourdes.
Alors, dans mes archives, le bidon KGM avec le porte-bidon, j'ai...
Ah oh bah oui, mais ça, c'est classique, ça.
Ah, c'est le bidon, on a lu avec Bouchon en Liège, vous en trouvez pas beau. Alu, oui, oui. Ça fait partie de mes vieilleries.
Hello, Brett. Yes, you're sleeping now? Yeah. I'm sorry. We will begin the sale in 10 minutes. Okay. Okay. Bye. Si, il est réveillé. C'est deux. Eh bien, fini.
On se retrouve là.
Je ne savais pas que ça avait un intérêt pour le...
Si, c'est absolument depuis très longtemps. J'ai fait un livre sur copie. Ah, je vais vous l'envoyer, vous le connaissez pas. Bon, je vais vous l'envoyer. Il est chez un éditeur, c'est en liaison avec un film que j'ai fait sur Arte aussi, qui est repassé derrière il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait un livre, oui. Et malheureusement, bon, l'éditeur a fait faillite, pas à cause de moi. Et du coup, le livre est introuvable. Je vais vous l'envoyer.
Dominique Chameux, producteur sur France Musique. De l'émission, le fauteuil de Monsieur Dimanche.
Alors, le titre, malheureusement, n'est pas très original. Il est très pertinent pour le propos, parce qu'il s'applique aussi bien à Copie qu'à l'Italie. Mais je suis embêté parce que c'est un titre complètement bateau. Il y a une dizaine de livres à peu près dans la même période qui s'appellent L'échappée belle. Et si je le réédite, je vais changer le titre. Mais je ne sais pas encore exactement quoi.
On va y aller, non ?
Oui.
Il n'y a pas de micro, non ?
Si.
Ah. Bon, mesdames, messieurs, donc nous allons. Procéder donc à la vente du vélo de Fausto Coppi, donc, qui était la propriété de Raphaël Géminiani depuis 1952, qu'il a offert à l'association Velle Auvergne et qui elle-même a décidé de le vendre aux enchères. Alors la vente va être un peu compliquée parce que nous avons au téléphone un Californien. Il est 2h30 du matin. Hello, Brett. Yes, that's Bernard. Yes, we will begin this sale. You are okay?
Alors, nous commençons pour ce vélo de Fausto Coppi à 5000 euros.
Yes, we begin on 5000 euros.
5000 euros pour yes, ce okay for vélo, you? Cette légende. On ne devrait même pas proposer de prix, d'ailleurs. Exactly. C'est vous qui devriez les proposer.
Ça n'a pas de prix, c'est le mythe.
5000 euros pour 5000 euros. 6 000 euros.
Yes, for
l'autre téléphone, 6 000 euros.
Yes, 7.
7 000 euros pour un morceau de légende, 7 000 euros, c'est vu, 7 000, personne ne connaît l'achat de 7 000 euros pour ce vélo à 7 000 euros. 7 000 euros.
8 000.
8 000 euros. 8 000. Sommes à 8 000.
8 000.
8 000 euros.
No more you.
8 000 euros, c'est vu, 8 000. Ça laisse partir à 8 000 euros.
No.
9 000 euros ici.
No.
9 000 euros. 9 000 euros. 9 000 euros.
No more for you. It's finished.
9 000 euros. 9 000 euros pour ce lot.
The price is 9,000 euros. It's important for you to have this. Yes.
9 000 euros pour ce lot.
Yes or no?
Pour ce vélo de la Bianchi. 9 000
Which
euros.
Won Paris-Roubaix 1950? Yes.
9 000 euros.
No more. It's finished. Okay. Bye.
9 000 euros.
Allez.
9 000 euros.
3. Voilà. Eh bien, il ne partira pas aux États-Unis. Il restera en France.
Le vélo de Fausto.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Il reste en France, il a dit, mais qui c'est qui l'a acheté? La petite dame qui était là-bas au téléphone.
Oui, non, mais c'était pas elle, c'était le téléphone pour l'étude. C'est quelqu'un qui avait demandé à être appelé. Un particulier, mais pas de la région.
Pas de la région.
Non, non.
Il est de quelle région, s'il vous plaît? Enfin, tous les éléments que vous pourriez nous donner.
On va vous dire qu'il est plutôt juste. De l'est de la France.
Alsacien?
Non.
Alors, je vous écoute. Alors, Emmanuel, votre prénom? Oui. Vélo et maillot en général, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous collectionnez toutes ces choses-là? 8aine d'années? Ok. Est-ce que je peux vous demander votre âge, s'il vous plaît? 40 ans. Je vous remercie beaucoup. Je vous passe un collègue. Un petit instant, s'il vous plaît. Merci. Au revoir.
Emmanuel Déhan. Là, je suis sur une aire d'autoroute, donc c'est pas très commode, mais je voulais simplement faire connaissance un peu plus avec vous et savoir si c'est l'intérêt du cyclisme en général ou Copy en particulier qui vous a décidé à acheter son vélo.
Écoutez, je dirais que c'est les deux à la fois parce que on peut difficilement dissocier Copy du cyclisme parce que c'est un des coureurs les plus mythiques qu'on ait connus et qu'on connaisse, ça tient sur les doigts d'une main, je dirais, les très grands coureurs. Et puis, il y a quelque chose aussi d'un petit peu particulier, c'est qu'il est mort, comme vous savez, assez jeune. Donc, il était sur une lancée qui, a priori, en aurait fait, au-delà du mythe, probablement un très grand champion en termes de titres conquis, et tout le monde a gardé présent à l'esprit cette vie, finalement, qu'on n'a pas complètement connue, d'un coureur qui paraissait extraordinaire.
Comment vous allez utiliser ce vélo?
Eh bien, bon, déjà, il faut que je le récupère. Pour le moment, il n'est pas encore à la maison. Ensuite, ce que je projette de faire, c'est bien sûr en profiter un petit peu moi, mais pas en roulant. Il sera uniquement exposé.
Oui.
Ce serait un petit peu dommage d'abîmer une telle machine, d'autant qu'il a été restauré, donc il est très beau.
D'accord.
Et puis, dès que j'en aurai la possibilité, je partagerai ce plaisir avec le public, avec un projet à terme qui n'est pas encore complètement défini, d'ouverture d'un musée sur l'histoire du cyclisme.
Il y avait un concurrent américain qui a abandonné, je crois, je ne sais plus à quel moment.
Dans la mesure où je suis intervenu également moi-même par téléphone, je ne pouvais pas visualiser qui intervenait dans la salle. Donc j'ai simplement écouté les enchères et puis choisi les moments où j'ai, moi, donné un prix. Mais effectivement, j'ai cru comprendre qu'on n'était plus que deux sur la fin.
C'est ça.
Et j'ai appris après coup qu'il s'agissait, a priori, du directeur d'un musée américain. Donc,
et vous étiez disposé à aller encore plus loin ou comment ça serait passé?
Alors écoutez, moi c'est une machine que je connais puisque je l'avais vue déjà deux ou trois fois chez Raphaël Geminiani, qui était l'ancien propriétaire. Et donc je m'étais fait une petite idée de ce que je pensais pouvoir mettre et ce que peut valoir une telle machine. Mais bon, il y a un mythe aussi derrière Faustocopie qui, lui, n'a pas de prix. Donc c'est très difficile en parallèle d'en faire une estimation. Je crois d'ailleurs qu'elle était bien supérieure en ce qui concerne l'hôtel des ventes, les experts qui en ont fait l'estimation.
Si monter un cran de plus, vous n'alliez pas plus loin.
Quant à moi, eh bien, pour répondre à votre question, je suis allé un petit cran au-dessus de ce que j'avais pensé. Ce qui voudrait dire que si l'Américain avait fait un pas de plus, c'était pour lui probablement la machine. Voilà.
Et le vélo, c'est la question que j'ai posée sur l'aire de stationnement aussi. Le vélo va vous être livré comment?
Je vais essayer d'organiser son transfert probablement avec un transporteur, parce que je n'irai pas spécialement sur Clermont-Ferrand pour le chercher. De Nancy, c'est un petit peu loin, donc il va falloir quelques jours pour que je le récupère et que je puisse enfin en profiter.
C'est le fameux vélo, c'est celui-là.
Bello sto libro, eh? Le grandi classiche, Champ de Mont, ah oui.
E Pierre Chani?
Sì, sì, bravo Chani, grande giornalista.
Ah, c'est Pierre Chani. Il est avec lui pour s'attaquer à ça, il en a fait.
Dans quelques instants, copie impériale, lâchera Maurice Diou.
Paris-Roubaix, ça.
1950. Ouais.
Ça, Paris-Roubaix, quand il gagne devant Diou. Ah, dis donc.
La fabuleuse histoire des grandes classiques et des championnats du monde.
C'est un bouquin de Pierre Chani.
Un grand journaliste. Et beaucoup apprécié. Diou est décédé, je crois, accidentellement. Je crois qu'il a été renversé par une voiture. Copie, malheureusement, est mort d'une fièvre contactée en Afrique.
Troisième, Magny. Terzo, la volta. Terzo, si.
Magny, je pense qu'il est toujours en vie. Hein. Oui, je crois qu'il est toujours en vie.
Mais... Cinquième, Sierdis.
Alors, Sierdis, je ne peux pas vous dire.
Il y avait aussi Molinari.
Sixième.
Oui. Ah oui, je me rappelle de ce Paris-Roubaix.
De Clercq.
Septième.
Ça, je ne sais pas.
Meunier.
Huitième.
Georges Meunier, oui. Je ne sais pas, je n'ai pas de nouvelles non plus. Là.
Marcel Kint, on l'a rencontré.
Dixième.
Et il y avait Georges Claes.
Neuvième.
C'est un Belge aussi.
C'est un Belge aussi. Ouais. Sur les classements du Paris-Roubaix.
Du Paris-Roubaix, oui.
50.
Oui.
50.
Charles Coste.
Quatrième.
Je crois que nous avions quelques gouttes de pluie au départ, et après il a fait très beau. Nous partions de Saint-Denis.
Oui, oui, on partait de Porte de la Chapelle, par là.
Donc Compiègne, on montait la côte de Doulance à l'époque.
C'est parti vraiment dans la côte de Doulance. Nous sommes une vingtaine, nous faisons un éventail, il y avait un peu de vent. Il y a un éventail avec Copie, Schulte, et il y avait Magny dans l'éventail aussi.
Pianura, hein, così, io ero abbastanza forte,
assez fort sur le plat.
Ouais, on se trouvait sur le plateau et puis ensuite Arras. Arras, c'était le contrôle de ravitaillement.
Et Copie est parti au ravitaillement.
Il y avait deux échappés à l'époque, je crois, si mes souvenirs sont exacts, Molinéris et Diou, Maurice Diou.
Il y avait beaucoup de poussière parce qu'on roulait sur les trottoirs, sur les pavés, sur les trottoirs.
Et Copie a démarré tout de suite après le ravitaillement. D'ailleurs, il n'a pas pris son ravitaillement parce que c'était son coéquipier Corrieri qui lui avait donné le ravitaillement. Moi, j'ai essayé de suivre, mais je n'ai pas pu.
À 30 km de l'arrivo, Copie parte.
À 30 km de l'arrivée,
sur pavé, sur
Copie part.
À bord, non?
Pas sur le pavé, sur le bas-côté. Et moi, dans sa roue.
Moi, je l'ai vu partir et j'ai dit, c'est pas mon rôle d'y aller. Moi, je n'étais pas un des favoris. Magny était un des grands favoris avec Copie, c'était le rôle à Magny, il n'y allait pas à moi.
À 20 km,
à 20 km de l'arrivée,
j'ai dû lâcher la roue.
J'ai dû lâcher la roue.
En pianura, non en salita.
Sur du plat.
Salita est normale.
En montée, ça aurait été normal.
Et après, j'ai été rejoint par... Je sais qu'il y avait Van Steenbergen, Magny avec moi, mais nous n'avons jamais pu rejoindre Copie, bien sûr, puisque Copie était dans la plus grande forme à l'époque. Hein.
Magny a voulu y aller trop tard. Il avait pris 100 mètres, on ne l'a plus revu.
Et quindi,
et donc,
io poi
je
mi sono demoralizzato,
démoralisé.
Diou
m'a rattrapé.
Et m'a anche passato.
Et il a terminé avant
si,
moi.
Si.
Et puis j'ai raté un trottoir. Et je me suis retrouvé sur les pavés, eux sur le trottoir. Et c'est là où j'étais décollé par Magny Serdis et puis Costa.
J'ai chassé avec Mani, mais Mani ne voulait pas rouler, étant donné que Copy était devant. Au vélodrome de Roubaix, bon, j'ai emmené le sprint et puis il m'a battu au sprint. C'était comme ça.
C'est ouais. Une grande course, mais une grande copie.
C'était hein. Une grande course, mais c'était du grand Copy.
C'est indéfinissable. On ne peut pas expliquer. Il roulait un peu plus vite que nous. C'est tout. Il grimpait un peu plus vite que nous. C'est tout. Il faisait ça un peu plus souvent que nous. C'est tout. Et puis c'est tout.
Et c'est un petit bijou. C'était le vélo de Fausto de Yann Parentoen sur France Inter. On se déplace maintenant à la Cassette, un nouvel espace associatif dédié à la radio et à la création sonore à Aubervilliers, où l'on a aussi écouté le vélo de Fausto, pour recueillir quelques réactions à chaud des membres du bien nommé collectif Transmission, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, transmettre le savoir-faire de Parentoen. Adrien Chevrier, tu découvres hein, cette œuvre de Parentoen qui était inédite. T'en as pensé quoi, toi, qui es de la profession, qui es de la maison même, je dirais, de la maison ronde? Tu n'as pas croisé Yann, hein. T'es trop jeune pour l'avoir croisé.
Non, je suis beaucoup trop jeune et je crois que quand j'ai commencé à France Culture, lui, il avait déjà arrêté d'y travailler. Enfin, il refusait que ses œuvres y soient diffusées. Moi, ce que je trouve très beau, c'est que on sent qu'il est pas dupe de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il fait un documentaire au fond, non pas tant sur ce personnage que sur ce vélo. Moi, je suis producteur délégué à France Culture. Enfin, je suis documentariste à France Culture. Et moi, ça m'a surtout donné le sentiment d'être une espèce d'anti-documentaire ou un geste vraiment ironique avec ce qu'est le documentaire. Cette ironie, je la trouve très, très tendre, quoi. Je la trouve très belle parce que je trouve qu'il invente vraiment un jeu à la fois avec l'auditeur, avec ses personnages et avec ce personnage absent qui est le personnage de son documentaire.
Fausto.
Un jeu qui ne cesse de rejouer les codes habituels du documentaire, tu vois.
Tout de suite, c'est un auteur.
Andrea Cohen.
C'est clair. Après, évidemment, maintenant, on sait que il a des traits de style, Yann, que tout le monde connaît, ou tous les gens qui connaissent Yann connaissent, comme cette manière d'enregistrer la voix dans une proximité, dans une intimité, et puis enregistrer ce qu'il appelait le son-action, c'est-à-dire la voix en situation. Il appelait ça en action, lui. Il nous fait vivre une situation.
Claire Latzag. J'ai 39 ans. Je commence à faire du documentaire de création sonore.
On est à la Cassette, alors on vient d'écouter le vélo de Fausto. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Ce que j'ai trouvé vraiment hyper fort dès le début, enfin, j'ai remarqué ça au début, et après tu vois que c'est le motif récurrent, c'est comment tout s'organise comme une course dès le départ. Et donc t'as la course entre l'interprète et la bande qu'elle entend, et petit à petit, ça se décale, elle est plus en train d'interpréter après coup, mais des fois elle se fait devancer, elle devance ce qui va être dit. Enfin, il y a ce jeu de montage qui fait que c'est comme si elle courait et se faisait parfois dépasser et dépassait elle ensuite aussi. Ça nous met tout de suite dans cette idée de course, quoi. Et je trouvais que ça, c'était très fort. Et au début, en plus, le fait que ça soit la première course, c'est celle de cette séance d'écoute dans le studio avec les bandes qui tournent. Moi, l'image mentale, c'était les bandes qui tournent comme une roue de vélo aussi.
Et c'est enregistrement pour Clermont, vélo Fausto Copy, vélo Fausto Copy.
Andrea Cohen, musicienne, productrice de radio, argentine d'origine, et j'habite en France depuis très 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 longtemps.
Et t'as travaillé combien de fois avec Yann?
Avec Yann, je n'ai pas travaillé directement, je l'ai croisé beaucoup parce que je travaillais à la CR, qui était au même étage, c'était la cellule 271. C'était la cellule où il y avait René Farabé, donc je l'ai croisé souvent, Yann. Et Yann disait qu'il fallait que la radio soit quelque chose de lisible. Évidemment, il parlait de la radio à une époque où la radio était éphémère. On pouvait pas réécouter. Et en tout cas, il savait qu'il avait plusieurs lectures possibles. Mais une première lecture, grande lisibilité. Et après, il y avait des lectures, bon, tout un travail esthétique sur le sonore. Mais il avait cette préoccupation. Mais donc je l'avais interviewé parce que j'avais écrit sur les compositeurs et l'art radiophonique.
L'art radiophonique.
Ouais.
Tu parles d'art, ouais.
Ouais. Oui, l'art radiophonique. Est-ce que c'est que l'écriture radiophonique?
Fanny Dujardin, tu viens d'écouter le vélo de Fausto de Yann Parentoen. T'en as pensé quoi?
C'est super de découvrir une nouvelle pièce. C'est intéressant aussi de l'écouter en ayant un peu dans l'oreille ce qu'il a pu faire avant. Et moi, c'est vrai que là, en l'écoutant, j'étais surprise un peu par deux choses qui m'ont sauté à l'oreille. D'abord, l'humour de cette pièce qui est vraiment très drôle et qui est presque plus une pièce sur les fans de Fausto Coppi que sur Fausto Coppi lui-même. Donc, il y a une sorte de, ouais, de plaisir ou de malice du preneur de son à enregistrer tous ces gens qui, finalement, sont chacun dans leur lubie. L'autre chose aussi qui est assez frappante, c'est que c'est une leçon de réalisation sonore. Et il y a vraiment dans cette pièce, presque plus que dans les autres, un plaisir à faire entendre l'enregistrement en tant qu'enregistrement. Alors ça m'a fait penser beaucoup à On Nagra, la pièce qui fait sur Koudelski, la personne qui a inventé l'enregistreur portatif, le Nagra, où on entend énormément d'archives, d'extraits sonores, etc. Et là, on entend très souvent Yann en train d'enregistrer les autres. Il laisse beaucoup plus sa voix que d'habitude, en fait, que dans les autres pièces. Et on entend aussi, par exemple, dans les premières minutes de la pièce, la traductrice en train de traduire. Et il y a une sorte de variation sur les manières de monter, sur les manières de mettre en onde une traduction, sur les manières de faire entendre à la radio ce que c'est que de traduire. Et ça, c'est vraiment, je pense, aussi un trait de Yann Parentouen et un trait qui caractérise un peu les artistes qui sont arrivés à un certain stade de la pratique de leur art, qui fait qu'en fait, ils ont tout le temps une réflexion sur ce qu'ils sont en train de faire, sur leurs propres gestes techniques, sur ce que ça veut dire de raconter quelque chose. Fanny Dujardin, j'ai 28 ans. J'ai fait une école d'écriture et de réalisation documentaire qui s'appelle le CréaDoc, où j'ai appris à réaliser des documentaires sonores. Et aujourd'hui, je fais une thèse de doctorat sur le documentaire radiophonique et ce que ça veut dire que d'écrire avec les voix des autres.
ACR, Atelier de création radiophonique.
On Nagra, il enregistrera.
Par Claude Giovannetti, Yann Parentouen et le Nagra 4S 3328.
On Nagreva, il enregistre.
Il enregistre.
Laure Adler, j'aimerais bien que tu me parles un peu de Yann Parentouen. Alors on va le faire en distanciel, hein, ça situera l'époque. Tu me dises deux, trois choses que tu sais de lui.
L'acuité de son regard, son sourire, son air penché sur sa régie technique, une grande douceur, un grand accompagnement dans tous les sens du terme. En tout cas, moi je peux en témoigner parce que dès que je suis arrivée à la radio, il a été une sorte de mentor qui m'a soutenue, qui m'a aidée et qui, d'autre part, se manifestait après les enregistrements pour discuter avec mon invité pendant des plombes. Il m'a expliqué son amour de la Bretagne, son amour de la terre. Et puis un jour, il est arrivé avec des pommes de terre. Il m'a offert des pommes de terre. Elles étaient bleues. J'avais jamais vu des pommes de terre bleues. Elles étaient délicieuses, elles avaient un goût de noisette. Et c'est comme ça, peut-être, qu'on peut commencer à faire l'éloge de cet immense artiste qui était Yann Parentouen. Je crois le plus grand d'entre nous, c'était le plus grand des stylistes, c'était le plus grand amoureux du son. C'est celui qui pensait à juste titre que prendre une ambiance sonore dans une course cycliste ou dans une usine ou dans une manifestation permettait de faire comprendre où on était, d'où on était et à qui on s'adressait. Et aujourd'hui, force est de constater, je ne vais pas sombrer dans la nostalgie, parce que je suis optimiste et je sais qu'il y a plein de jeunes de la nouvelle génération qui s'obstinent à faire du documentaire radio sans voix off et à des capteurs de son. Mais je pense que la radio de Yann, celle qui exprimait son âme profonde sans commentaire, c'est ça, à mon avis, le cœur de la radio, le feu de la radio. C'est pas le commentaire, c'est pas la tchat, c'est pas le brouillard opaque des paroles, surtout au moment des réseaux sociaux. Voilà, Yann, c'est mon maître, il le reste. Et je pense qu'il le restera pour toutes les jeunes générations.
Alors, moi, c'est Azilis Potzer, j'ai 19 ans et je suis étudiante en journalisme, du coup, à Lannion, en Bretagne.
Tu découvres Parentouen aujourd'hui ?
Alors pas tout à fait, je l'ai découvert en décembre dernier parce que mon père a offert à Noël un livre à mon frère qui est technicien son sur Parentouen et mon frère m'a dit « Waouh, c'est incroyable, j'en ai vachement entendu parler en cours, etc. » Et moi j'y connaissais rien, pourtant je fais de la radio, je suis étudiante en journalisme et j'en avais jamais entendu parler.
T'en as pensé quoi ?
Ben, j'en ai pensé que c'était assez incroyable la manière qu'il avait de monter, ce qu'on a évoqué, ses plans séquences, la manière de construire le son.
Du vélo de Fausto.
Ouvrez grand vos oreilles.
Oui, ouvrez grand les oreilles. Oui, on continue la soirée spéciale hommage à Yann Parent-Ohen. Et on va écouter une deuxième partie du travail documentaire de création de Yann Parent-Ohen sur Faustocopie, tout aussi inédite que la première, et dont ses filles Armelle et Gwenola m'ont amicalement confié les bandes magnétiques originales. Et je les en remercie chaleureusement. Après le vélo de Fausto, on va écouter et découvrir les funérailles de Faustocopie, enregistrées sur plus de 20 ans à partir de mai 81 et montées et mixées en juillet et août 2004 dans la cellule 208 de la Maison de la Radio par Yann Parent-Ohen avec l'aide de Claude Giovannetti. Les funérailles de Faustocopie, jamais diffusées à l'antenne donc, et pour cause. Yann est décédé quelques mois plus tard, le 28 février 2005, à l'âge de 69 ans. Alors, cette création radiophonique sur Faustocopie, ce grand champion cycliste dont Yann était admirateur, Yann a voulu absolument la terminer, malgré la maladie. Et elle résonne aujourd'hui comme un double, comme une double oraison funèbre, à deux virtuoses, l'un du vélo et l'autre du magnéto. On y va, les funérailles de Faustocopie, 45 minutes 47 secondes, avec l'autocollant PAD prêt à diffuser, collé sur la boîte de la bande magnétique.
Vous avez assisté à l'enterrement de Fausto ?
Ben non, j'étais moi-même à sa peau de mourir. Et moi, je m'en suis réchappé, je l'ai su qu'après, moi. Moi, je suis resté en coma 8 jours. Et c'est l'Institut Pasteur qui m'a sauvé. Sinon, on a essayé de le sauver, enfin, on a essayé, pas moi, puisque j'étais dans le coma. Mais ma femme. Et d'ailleurs, ils le regrettent tous, parce que ma femme a téléphoné en Italie. On me disait, écoutez, on vient de trouver ce que mon mari a. On a été piqué par les moustiques, la malaria mortelle. On avait pris ça à Ouagadougou. On était dans la même chambre.
Raphaël Gemignani.
Donc, on peut pas se tromper. Et le docteur qui le soignait, on dit, écoutez, vous soignez votre mari pour ce qu'il a. Nous, on soigne copie pour... on pensait qu'il avait une bronchite aiguë, un truc comme ça. Finalement, on avait le même mal. Coppi è morto il 2 giugno 60.
Dall'ospedale di Tortona la salma di Fausto Coppi è stata traslata a Castellania, suo paese natale.
Dall'ospedale di Tortona il corpo di Coppi è stato trasportato a Castellania, il paese dove è nato.
Qui il grande e tormentato corridore riposerà accanto al fratello Serse.
Ici il grande coureur tormenté reposerà au côté de son frère Serse.
Così come la madre ha deciso.
Come leur mère en a décidé.
Sandro Baldoni e Nico Sapio hanno seguito per Voci dal Mondo questa ultima tappa del campionissimo.
Sandro Baldoni e Nico Sapio ont suivi cette dernière étape du campionissimo pour Voix du Monde.
Archives de la RAI, 3 et 4 janvier 1960. Durée, 3 minutes 47.
On va faire comme ça, dans un coin d'église, où il y a une petite projection cinématographique. Pré-générique, Castellania, 4 janvier 1960. Un noir pour commencer. Éclatent alors trois coups cuivrés, épais et sinistres. Trois coups du théâtre, trois coups du destin.
Mai vi era stata attorno a Fausto Coppi una folla tanto silenziosa.
Jamais il n'y avait eu autour de Fausto Coppi une foule tellement silencieuse.
Un peuple vient défiler, se recueillir devant la dépouille du héros qui l'a tué.
Fausto ritornava a Castellania.
Fausto retourné à Castellania.
Funèbre de Siegfried. Mélopée mortuaire d'une banda.
Il ciclo breve e glorioso della sua esistenza.
Le cycle brève et glorieux de sa vie.
Si chiudeva in una giornata di sole.
S'est arrêté dans une journée de soleil.
Con un ritorno fedele
a avec un retour fidèle
solo apparentemente
à sa terre seulement apparemment oubliée.
« Castellania, Piémont, 4 janvier 1960. Il fait beau, mais des pluies d'hiver et les premières neiges aujourd'hui fondues ont transformé en bourbier glissant les pentes du petit cimetière où l'on porte Fausto Coppi en terre. Il est mort l'avant-veille, 2 janvier, au creux de la nuit. La stupéfaction éclipse presque la douleur.
De son petit village natal, le campionissimo était parti tout seul il y a longtemps de cela.
La foule déborde largement les contours d'une communauté venue rendre hommage au plus illustre des siens. C'est un pays entier qui se presse, qui patauge, glisse et s'enfièvre en silence. Pas de musique en fait, des diseuses de chapelet et une pleureuse.
Ora, centinaia di auto.
Maintenant, des centaines de voitures
seguivano su per la strada impervia.
Montaient la petite rue. Derrière le cercueil.
En tête du cortège, 2 hommes tiennent une bannière, à l'effigie fleurie du champion du monde rayonnant. On dirait qu'il mène le peloton. C'est sa dernière course. Un peu comme de l'enterrement de Sartre, on dira que c'est sa dernière manif.
La lunga fila giungeva fino a Carezzano Maggiore.
La longue queue arrivait jusqu'à Carezzano Maggiore.
Ancora ben lontana dalla casa dei Coppi.
Qui est encore loin de la maison de Coppi.
On dénombre 86 porteurs de couronnes qui déposés le long du talus forment une muraille de fleurs. Et on a la vision du coup de cette muraille de glace au Stelvio, entre laquelle il se frayait son chemin dans le Giro 53. Sa dernière grande course à étapes gagnée.
3 chilometri circa più.
E la coda delle auto va da qui fino a Castellania.
Fino a Castellania.
Il y a environ une queue de 3 km.
Et la queue des voitures va d'ici jusqu'à Castellania.
Et elle va jusqu'à Castellania.
Anche per il povero Sersi, buonanima è stato così. Fermato qui tutte le macchine perché non potevano andare oltre.
C'était la même chose pour Sersi. Toutes les voitures étaient arrêtées là.
E la gente vedo che va a suo piedi, cerca di raggiungere la casa
sì,
a piedi.
Vanno a suo piedi perché non possono più passare le macchine né nessun altro modo di trasporto.
Et je vois que les gens montent à pied jusqu'à la maison.
Ils montent là-haut à pied parce que les voitures peuvent plus passer, il n'y a pas d'autre mode de transport.
Mais surtout ce défilé interminable. 30 000 personnes viennent de toute l'Italie et au-delà. La foule massée immobile voyait naguère filer le champion en un trop bref éclat. Et c'est elle qui aujourd'hui passe lentement devant un cercueil posé sur 2 tréteaux.
La folle aveva cominciato a riunirsi imponente.
La folle a commencé à se regrouper.
Già nella piazza Gavino Lugano di Tortona.
Dalla place principale a Tortona.
Quando la bara è uscita, portata a spalla da alcuni.
Quand le cercueil est sorti e trasporté sulle épaules.
Tra cui Ettore Milano.
De ses plus fidèles.
Solo poche corone però hanno potuto adornare il
cercueil. Seulement quelques couronnes ont pu décorer le cercueil.
Le corone ce ne stanno 5.
Les couronnes, il y en a 5 sur le corbillard. On peut pas en mettre plus de 5.
Ma qui ce ne sono decine e decine.
Mais ici, il y en a des dizaines et des dizaines.
Et je le sais, mais on ne peut pas mettre plus de 5 couronnes sur le corbillard.
Le altre corone.
Les autres couronnes.
Sono restate così nella piazza deserta.
Sono restées là, dans la place déserte.
Mentre il corteo si allontanava verso Castellania.
Alors que le cortège s'éloignait vers Castellania.
C'était en 60, j'en ai eu 38 ans. Et j'aurais pu être là.
Nel corteo stesso abbiamo ritrovato i personaggi principali del dramma breve e doloroso del campionissimo.
Dans le cortège même, on a retrouvé les personnages, les principaux personnages de sa brève vie.
Il fratello Livio, anzitutto.
Les frères Livio, tout d'abord.
Che fino in fondo aveva sperato al capezzale del Morente.
Qui avait toujours espéré,
raccogliendo le sue ultime parole,
en recueillant ses derniers mots.
Je lui ai dit, tu as mal, Fausto. Partout, j'ai tellement mal, Livio. Et puis,
Abbiamo ritrovato anche il primario dell'ospedale di Tortona, professor Asnaldi.
Nous avons retrouvé également les spécialistes de l'hôpital de Tortona, le professeur Arnaldi.
Cui la scienza aveva vietato di sperare assai prima.
Ma chi aveva interdit d'espérer beaucoup plus tôt.
Lei pensi che il Fausto ha una, pensez que Fausto avait
une fréquence de battements cardiaques d'environ 40 quand il était dans de bonnes conditions. Déjà avec 37,8, il en avait 120. Ça a été cette disproportion entre la température et son pouls
che mi ha immediatamente dato la sensazione della estrema gravità della situazione.
Qui m'a immédiatement donné la sensation de l'extrême gravité de la situation.
E monsignor Lorenzo Ferrarazzo, cappellano dell'ospedale.
E se monsignor Lorenzo Ferrarazzo
che ci ha voluto ricordare oggi come Coppi abbia saputo affrontare.
Chi ha pu nous rappeler comment Coppi a su faire face
il momento del trapasso.
Au moment de sa mort.
L'ha affrontato con quella serenità un poco chiusa che era nel suo carattere.
Il l'ha affronté avec cette sérénité secrète qui faisait partie de son caractère.
Non l'abbiamo mai conosciuto molto espansivo.
Nous ne l'avons jamais connu très expansif.
Coppi ne poteva esserlo nell'ora della morte.
Et il ne pouvait pas l'être dans ce moment-là.
Perché era sempre stato se stesso.
Toujours été lui-même,
anche in quell'ora.
Et tel il est resté même dans sa dernière heure.
Però, non proprio questa sua fermezza.
Mais justement, sa fermeté
mi ha dato la convinzione che sapesse affrontare.
Mi ha donné la certitude qu'il était capable d'affronter.
Ormai con una coscienza nuova, quel momento che certo lui prevedeva che fosse o che potesse essere l'ultimo per lui.
Avec une conscience nouvelle, ce moment qu'il pressentait être le dernier.
E così è rimasto composto, così l'abbiamo visto, così l'avete visto, così lo ricorderemo quando ripenseremo a questa tragica fine.
Il était paisible, tel que nous l'avons vu, tel que vous l'avez vu. Et c'est ainsi que nous nous souviendrons de lui lorsque nous repenserons à sa fin tragique.
Ah, tu vois, oui, j'ai voulu tout à coup voir en chair et en os cet homme, Coppi. On était en Italie avec le TNP.
Chantopard.
Et tout à coup, j'ai appris que les championnats du monde avaient lieu à Frascati. Maintenant, on va à Frascati pour voir Coppi. Mais j'ai vu cet homme. Extraordinaire physique. C'était un grand seigneur, cet homme, Coppi.
Il ne faisait rien pour être différent, mais il était indifférent, quoi. La vie obéit presque, la destinée obéit presque à l'individu et lui réserve un sort particulier. Parce que c'est vrai que son histoire en Afrique, et puis tout à coup, cette erreur qui a été faite de diagnostic, ce destin qui s'arrête comme ça, c'est un peu comme Gérard Philippe, d'une certaine manière. Il y a des gens, on a l'impression que le destin les gâte, n'est-ce pas? Et puis que tout à coup, tout s'arrête. Et ça fait partie de la légende. Donc ça peut permettre à une légende de perdurer.
Oh, c'est extraordinaire. Michel Bouquet visitait l'Italie dans une petite voiture découverte. Et à un certain moment, dans un pays vallonné.
Oui, je l'ai vu. En effet, une fois, près de Vérone, oui. J'étais avec un ami. On a vu un cycliste qui montait une rampe très très sévère, dans le Véronais. Une chose très très forte, et qui montait ça allègrement. Je veux dire en mangeant une banane sans tenir le guidon. Alors ça m'a impressionné. Puis mon ami m'a dit, tiens, c'est Fausto Coppi. Et puis il est passé. Puis voilà. C'est une figure à part.
C'est Francesco. Francesco Ratti. Tortona. 2 janvier 2004, Villa Garibalda.
Io ho messo una matrimoniale, volete una a due letti?
No, matrimoniale.
Bene.
Je vous ai réservé une chambre pour couple. Ou voulez-vous une chambre avec deux lits? Non, pour couple.
Si, questa è la casa di Fausto Coppi.
Ça, c'est la maison de Fausto Coppi.
Si. Quando ho vinto
quand il a gagné le championnat du monde à Lugano, il a acheté cette maison.
Era di
C'était la
Coppi,
maison de Marina Coppi,
della
la fille
di Fausto
Coppi et de Bruna,
Bruna
morte, son épouse.
Si, si.
Fausto, après,
con la dama
avec
bianca,
la dame blanche,
e non l'ha
il l'a laissé comme ça, il ne s'en est plus occupé.
Oggi è festa di Castellania.
Aujourd'hui,
volete andare
c'est fête à Castellania.
Ah, sì.
Vous voulez y aller?
Ma sì, intanto è 10
c'est
minuti,
à 10 minutes, il n'y a pas de problème.
Voi fate con comodo, poi vi accompagno io.
E je vous accompagne. Castellania.
Venga, venga. Buonasera. Buonasera.
Entrez, entrez.
Buonasera. Buonasera. Allora, prima di...
Alors,
di dimenticarmi.
Avant de
allora, qui è quando ho vinto
cette photo,
Lugano,
c'est quand il a gagné au championnat du monde à Lugano en 53.
Fausto Coppi,
Coppi
e
Filippi,
e Filippi quando hanno vinto mondiale,
toujours au championnat du monde.
Grazie.
Musée Coppi.
Lui era presente al funerale, eh?
Sì, io al funerale ero un ragazzino, avevo 15, cioè avevo 20 anni io, ma c'ero al funerale.
Monsieur était présent à l'enterrement de Fausto, il avait 20 ans.
C'est Vittorio che
il Vittorio.
Vittorio Coppi, cugino
Vittorio Coppi, le cousin germain de Fausto.
È sempre qui, c'era qui anche stamattina. Carità, in forestio, eh.
Il serait content de faire cette interview.
No, io ora ando a Glacca,
on peut téléphoner à Vittorio Coppi.
Domani siete in giro,
et demain, si vous faites un tour,
c'est de nous trouver des gens qui peuvent nous parler. Et donc il pense à
Vittorio Coppi.
Vittorio Coppi,
che Vittorio, il figlio del
le fils du commandante,
sì,
le frère du père de Fausto.
Così davanti
et comme ça, devant les photographies, lui, il racontera.
Più viva sì. la cosa.
C'est Franco qui dit, à mon avis, ça sera plus vivant.
Okay. Fatti dal giornale La Stampa, no? Allora, no?
Sì. Sorti du journal La Stampa.
Sì, proprio il corteo. E così fate quello che volete.
Sì.
Il giorno del funerale.
Le jour de l'enterrement de Fausto, c'était un temps comme celui-ci?
Così. Sì, era un tempo così. Era il 4 gennaio, un
oui,
tempo così.
C'était le même temps.
Tempo così.
Le 4 janvier, c'était le
neve,
même temps.
Neve, sì, tanta neve.
Neige et brume, tanta gente, beaucoup de brume sì. Et beaucoup de gens aussi.
Il giornale La Stampa, non aveva fatto proprio...
Le journal La Stampa...
Ho dei quadri che mi portai giù, che si vede
tutta
la gente
des,
che va
des
su.
Photos
tanta, tanta, tanta.
De cette foule, de tous ces gens qui sont venus.
E io sono del 38, lui è morto nel 60, avevo 22 anni.
Moi je suis de 38, lui est mort en 60, j'avais 22 ans.
Dans la foule, un peu en exergue, les compagnons de temps de lutte, qui le temps d'une course étaient ses adversaires. Oh, les acteurs de la pièce sont là, presque tous. On reconnaît Kubler. Silhouette mince et bronzée qu'on a parfois du mal à distinguer de copies sur des archives trop fugitives. C'était un tacticien fruste, mais un combattant inépuisable. Il montait correctement, il roulait bien, sprintait mieux encore, et surtout descendait à tombeau ouvert comme un fou. Et le fou pédalant. Et il est toujours vivant. Industriel, près de Zurich. On reconnaît Magny le Chauve. Formidable descendeur, lui aussi. Bon rouleur, grimpeur, médiocre. Qui un jour mobilisa, en quart, ses tifosi, pour les faire égrener sur les pentes d'un col décisif, afin qu'il le pousse la tour de rôle jusqu'au sommet. L'épisode avait fait grand bruit, et Coppi, qui en avait fait les frais, avait quitté la course en entraînant toute son équipe. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, Magny est un garagiste avisé. Près de Monza.
Signora.
Dunque, vieni, vieni.
Bene.
Tanto accendo la stufa.
J'allume le poêle.
Io ho un po' preparato.
J'ai un peu préparé.
Venga, venga, signora, venga. Un po' preparato, un po' pulito stamattina perché...
J'ai un peu préparé ce matin.
Un attimino, cosa vuole? Fra tutti bisogna darsi una mano.
Parce qu'on a tous besoin de céder.
La gente di Milano...
Il y a des gens de Milan qui vont venir.
Adesso sono andati a vedere Casa Coppi. Poi questo qui se lo prende.
Alors, maintenant, prêt? J'allume le poêle.
Adesso io accendo la stufa. Accendo la stufa. Perché vi aspettavo alle tre.
Si, on si, vous si, attendait si, à trois si, heures.
Non, non se preoccupare.
No, no.
Ne vous dérangez pas.
Va bene. Io accendo un po' la stufa. Buongiorno.
Bonjour. Et vous, vous venez d'où?
De Gênes.
De Gênes.
Vous êtes des Ligures,
vous êtes des Ligures, hein? Voilà le maillot de Pantani. Celui de Saroni. Là, c'est le maillot de Gimondi. Et là, c'est la maman de Fausto, Angelina. Il est beau ce vélo. Tout est métallique. Il y a un petit article sur le journal local. Sur Fausto. Je vous le donne.
Une importante colonie française a fait le voyage. Digne d'un pays qui était la seconde patrie de Fausto, comme on l'appelait les Français. Voici Louison Bollet. Longtemps barré dans le Tour de France par les Campionissimi, Bartali et Coppi, avant d'en aligner trois d'affilée, il était devenu l'un des amis les plus proches de Fausto, qui lui avait enseigné la diététique moderne des courses. Et cet homme intelligent et fragile s'est mué ensuite en brillant homme d'affaires. Il mourra d'un cancer en 1983. Son successeur et héritier désigné du champion italien Jacques Anquetil est là aussi. Coppi l'a remarqué lorsqu'il avait 17 ans. Il l'a amené à son masseur et directeur psychique, Biagio Cavanna. Anquetil, un coureur à l'économie, là où Coppi l'était à panache. Il gagnera tout de même 5 fois le Tour de France. Il est d'ailleurs, en 1960, en pleine gloire. Et lui aussi mourra d'un cancer. En 1988. Également présent, l'élégant sprinteur André Darringade. Bien vivant, quant à lui, dans ses landes de toujours. À quoi peut-il penser d'autre en ce jour qu'au crime qu'il a commis envers Coppi, en le privant in extremis d'une victoire autour de Lombardie 56, qui eût constitué un superbe point d'orgue à sa carrière?
Dai, dai, vai avanti.
Questo entrez, je vous en prie.
Cugino, cugino, figlio
c'est le cousin du fils du commandant.
L'artefice. Vai, vai, già, vai avanti.
Ci saranno delle...
Buongiorno.
Buongiorno,
signora.
Piacere, molto lieto, piacere.
No,
la sœur di Vittorio.
Du pays de Bernardino.
Bellissime.
Nous sommes venus en
81.
Et nous avons rencontré Livio et Rosa.
Rosina, ecco, sì, sì, sì. Sono morti.
Dans le journal, no? Il y a une photo. La route pour aller à l'église. Il était complètement plein de parcours pour rendre le dernier salut al campione, all'homme. Poi ho fatto una fotocopia.
J'ai fait une photocopie de l'article sur les funérailles.
Vedi questo Bobé, terrible, terrible, grida Bobé. Scoppiando in pianto dinanzi alla.
Regardez, ça c'est Bobé, terrible, terrible, essuyant un pleur sur le cercueil.
Bobé, Jean Bobé. Il était comme Bobé, et il était in amitié, parce que avevano lo stesso
modo di,
ils avaient
di
la même façon de penser
di correre, cioè,
et de courir.
Un'eleganza et una serietà.
Et un sérieux.
Nel faire le gare, ecco, quindi quello è importante.
Ça, c'est important.
Il y a aussi le luxembourgeois Charlie Gaulle, visage d'ange, qui, à l'instar de Coppi naguère, s'envole aujourd'hui dans tout col passant sous sa roue.
Darigadi, il est venu, si. C'était le coureur du moment, hein. C'était Bartali, Magni, tous les champions.
Le cyclisme italien d'avant-hier et de demain est également représenté. D'Alfredo Binda, le campionissimo des années 30, à Ercole Baldini, éphémère et décevant héritier désigné. Et bien sûr, présent aussi les fidèles Gregari, il est domestique devenu ami de Fausto, Carrea, Milano, Pezzi. Coppi disparu. Leur principale raison de vivre s'en est allée et on les admire d'être restés vivants aujourd'hui, leur tête pleine de souvenirs aussi vivaces qu'au premier jour.
Il n'a pas venu Geminiani. Maintenant, il était dans les mêmes conditions. Il est venu après, oui.
Vittorio Coppi.
Alors, mon père...
Le père de Fausto,
il était frère de Fausto.
Fausto Coppi était commandant de marine. Ed était le, come si dice, padrino. Padrino in francese?
De battello.
E allora Fausto
era Fausto. Le coureur, per noi, per la famiglia, il était Faustino.
Sì.
Mon père, c'était le premier qui regalait e donné a Fausto la première vélo.
Bicycle.
Bicycle. Sì. Poi il avait un vieil cyclette. Cyclette. E allora, maintenant, mon père a donné la cyclette da cour.
La corsa.
E après 1940, quando gagnò il primo tour d'Italia, allora la cyclette n'est pas un problema, parce que il avait à disposition beaucoup.
Sì.
Oui. E quando il manchè Fausto, nel 1960, il était in Indonesia, avec le navire, il était in Indonesia. On a pu participer à la funérailles.
Et la famille, Mamma Angiolina, qui pour la seconde fois au moins en 10 ans porte un fils en tombe, et elle-même mourra l'année suivante. Le frère Livio, qui donna sa première bicyclette à Fausto et soutient aujourd'hui la maman. La femme, la première femme, Bruna, cachée derrière un pilier. En proie à un chagrin irrémédiable. Elle mourra en 79. Et l'autre femme, Giulia Occhini, la dame blanche, l'officielle d'aujourd'hui, qui ne se cache pas et s'éplore bruyamment, morte début 93. Faustino, le fils, 5 ans, est resté à la maison. Et l'autre fille, Marina, 14 ans, n'est pas là, certainement pas par indifférence.
Ça, c'est le maillot de la Bianchi. Ça, c'est une bicyclette de la marque Pinarello. Vous allez monter avec eux, là. Oui, on y va.
Ici, il y a beaucoup de passants. C'est 40 000 sportifs accorsi da tutta Italia ai funerali di Coppi.
40 000 sportifs accourent de toute l'Italie aux funérailles de Coppi. Un extrait de la stampa.
Fausto riposa accanto a Serse nel piccolo cimitero di Castello.
Fausto repose à côté de Serse dans le petit cimetière de Castellaniglia.
Je suis ici avec Bruna durant le funérail.
La femme de Fausto, Bruna,
la moglie di Fausto, Bruna, la Bruna. E questa è la mamma,
la mamma di
Fausto,
Fausto,
mamma Angiolina. Ecco. This is Livio, c'è le frère di Fausto. E questa è la dama.
E celle-ci, c'è la dama, l'ami.
E io avevo 20 anni.
Moi j'avais 20 ans.
Emozione.
Tristesse?
No, tristezza no, no. Però c'è l'emozione di ricordare quei giorni, perché
de se souvenir de ce jour. J'étais près de la Bruna. Il y avait deux femmes.
Et allora tanti,
et alors la majorité des parents étaient allés avec l'autre.
Mio padre, tutti et mon père et moi,
nous étions avec la Bruna et
era
sa
giusto,
fille.
Era la
c'était
moglie,
juste, c'était la première femme.
E quella, allora noi ci siamo sempre stati, no? Ancora adesso con Marina.
E ancora maintenant.
In ottimi rapporti.
Insomma, avec Marina.
Allora era giusto stare con loro, ecco. E allora, insomma, un po' di emozione, sì, sì.
E Bartali. Stupéfait de chagrin, complètement désemparé devant ce corps d'athlète plus jeune que lui, abattu soudain, qui si souvent lui avait dicté sa loi, qu'il soit parti le premier, une fois de plus. Lui est bien là, toujours en ces collines florentines, Pompi Bonnelangue. 46 ans, 60, 82 ans, en 96. Blanc. Pâle. Bartali marche mécaniquement. La veille, il est venu déjà, un des tout premiers, s'incliner devant Copie. Et il a eu un malaise. Que de souvenirs. Venu d'un autre âge.
D'où venez-vous?
Io, Torino.
Moi, de Turin.
Torino.
Torino. Ma il prossimo anno
l'an prochain, je viendrai en bicyclette.
Ieri c'erano due signori che sono arrivati in bicicletta sotto la neve.
Hier, il y avait deux hommes qui sont arrivés en bicyclette sous la neige.
Anziano.
Et ils étaient âgés. Sous la neige. Sportif, habitué. C'est mieux de le faire à bicyclette plutôt qu'à moto. Oui, mais au printemps.
In primavera, sì. Davvero, ieri
già programmato.
Tanta gente.
Je l'ai déjà programmé.
Ci siamo meravigliati con una giornata di neve.
Hier, il y avait tellement de monde. On était étonnés avec cette journée de neige, ce temps brut, mauvais.
Une journée mauvaise, non? Il y a la neige. Deux personnes venaient de Trento.
Trento.
Ils sont venus de Trento, 77 ans.
77 ans.
77 ans. 77 ans, il est venu.
Un BC.
Avec le maillon de la Bianchi. Le maillon, oui.
Sur la neige.
Il,
oui.
Il retour toute l'année de
chaque année.
Pour,
oui,
oui. Pour la messe.
Oui. Pour la messe.
Chaque année, oui. Maintenant, de 44 ans.
La messe à 10 heures, 10 heures à midi. Sull'esterno. Ancora oggi è stato tutto un pellegrinaggio continuo. È toujours,
une
personne, tutta l'année, tutta l'année, tutti i giorni.
Arriviamo, siamo un po' persi.
Sì, sì, sì.
Arrivederci,
arrivederci, allora un altro anno,
Prossimo anno,
vediamo
la
gazzola.
Arrivederci.
Giusto.
Voi venite giù, no? Sì, perché avete la macchina giù.
Sì, veniamo
poi giù. Al cimitero o al monumento?
Dove sono sepolti i genitori di Fausto?
Au cimetière sont enterrés les parents de Fausto.
Fausto è sepolto lì nel monumento.
Fausto est enterré au monument.
Fausto e Serse sono lì Venga.
Fausto et Circe sont là. Venez. Vous avez dormi à la Villa Garibaldi? C'était la maison de Fausto. C'était une vieille ferme. Et après, c'était la maison de Marina. Il y a eu des problèmes pour entretenir cette maison. Maintenant, c'est une belle maison. Voilà. L'église est fermée. Fermée. Oui, elle est fermée. Mais il n'y a rien dans cette église de Fausto.
C'est la chiesa, ma non c'è niente lì di Fausto.
Et là, c'est le monument. Et d'où venez-vous?
Torino. Da Torino, sì.
Torino, lui è un amico.
Ouais, ami de Coppi.
Sì.
Beh, un grande tifoso.
Grand fan.
Vous
avez couru avec lui? Non, moi c'était bien après.
Corso anche lei.
Sì.
Coursier, vous aussi. C'est la première fois que vous venez ici?
Oui.
Sì,
ci sono anche due altre persone di Torino.
Il y a d'autres personnes de Turin qui sont venues aujourd'hui.
Bella giornata oggi.
Oh, belle journée.
Ieri non,
il neigeait. Il y avait tellement de monde et il neigeait. Ils sont enterrés là. Oui, Serge et Fausto, tous les deux. Fausto de ce côté et Serge de l'autre. Ils étaient dans le cimetière de la paroisse là-haut. Et puis après, ils ont construit le monument et ils les ont transférés là.
Io?
Moi,
Casale Monferrato.
Je suis de Casale Monferrato.
Piemonte.
Sì, provincia di Alessandria.
La province d'Alessandria.
È la prima volta che vengo.
C'est la première fois que je viens.
Sì, mai stato. Vissuto questo.
Sì, beh, certo.
Questa cosa, però qui non è. No, non ero mai stato.
Non, je suis jamais venu.
Si arriva con una certa poca segnaletica.
Peu d'indication. C'est un peu pénible de venir jusqu'ici.
Comunque, adesso. Loro sono seppelliti qui nel paese. Ah, sono seppelliti qui?
Ils sont enterrés là.
Che venivo su, facevo ste curve, venivo su ste salite.
Moi, je suis venu, certo, j'ai vu ces montées, ces virages.
Perché lui il suo paese.
Sur, ça lui faisait un sacré entraînement, parce qu'il était du village, il connaissait les routes.
Adesso è venuto su.
Maintenant, les routes sont toutes goudronnées. À l'époque, non. Ouais, moi aussi, je suis d'un village, je sais. Je suis de 43.
Mi ricordo,
je me souviens de tout.
Quando si è ucciso.
Quand le frère s'est tué, quand il est tombé, quand il a heurté le trottoir, j'étais devant la télévision, j'avais 10 ans, oui, en 51. Oui, je me souviens. C'est comme ça. Hein. Ouais. C'est étrange. C'était les années 60. Ça fait 40 ans. Et ils n'ont pas compris. Il habitait là. Non, là à côté. Livio,
al 31 è andato lì.
Le 31 est allé le voir. Il allait mieux. Mais c'était le progrès de la mort. Et le 2 à 8h30. Il est mort.
Se la sono cavata con un chinino.
Ils s'en sont sortis avec la chinine, les autres.
Infatti qualcuno ha detto se
fosse stato...
Ma gli altri che erano insieme,
ceux qui étaient avec eux ont pris de la chinine.
L'hanno riconosciuto dopo, eventualmente.
Il a peut-être été empoisonné.
Probabilmente hanno sottovalutato la cosa.
Ma peut-être, ils ont sous-estimé la chose.
I medici che l'hanno curato.
Chi ha sous-estimé? Les médecins qui l'ont soigné. Quand il est arrivé à la maison, il avait l'air mieux. Et puis on l'a soigné pour une grippe, et puis pour un virus. Ils lui ont donné de la cortisone. Et c'est ça qui a fait avancer la maladie. Ça a accéléré le processus. Et puis ensuite, quand ils l'ont amené à l'hôpital à Tortona, ils ont appelé le médecin qui était spécialiste des maladies tropicales. Ils lui ont transmis les résultats des examens.
Lui a dit,
si vous voulez, je viens. Mais selon ces examens, il n'en a que pour 2 ou 3 heures. Et de fait, il est mort 3 heures après.
Arrivederci.
Passiamo quest'estate magari.
Sì, la domenica ci siamo sempre al mattino.
Le dimanche nous sommes là le matin.
Portate il vostro amico
e amenez vos amis.
Grazie a voi, arrivederci, buongiorno. Durante l'été,
l'estate
viene più gente, più come si chiama,
il y a plus de monde.
Monde, oui, plus de monde.
Sì, plus de monde, più di più molti, ecco.
On fallait enregistrer l'église.
À vedere la chiesa.
Ah, vous voulez voir l'église? Non, enregistrer les cloches de l'église. À San Biagio, oui. Mais ça sonne seulement l'heure.
Il y a 11h30,
c'est
trop tard.
C'est trop tard.
Bisogna aspettare midi.
Vous devez attendre midi.
Addio Fausto.
Andrea Carea. J'ai passé l'année 49 dans l'équipe de Fausto. Ettore Milano.
Per me il Fausto, se io ho 2 soldi devo dire grazie a lui, ecco.
Si j'ai 2 sous, c'est grâce à lui, à Fausto.
Il ne faisait rien pour être différent, mais il était différent.
Michel Bouquet.
Mais il avait un cœur d'or, c'était un homme droit, honnête. Il écoutait beaucoup. C'était un grand, grand timide. On parlait piémontais tous les deux.
Pierre Molinéris.
J'ai jamais été sur sa tombe, j'y n'irai jamais. Parce que je peux pas.
Coupe, il marchait à pied. Il marchait comme un vieillard.
Papa.
Il se fatiguait pas. Dans la chambre, il fallait tirer les rideaux, baisser les lumières et parler à voix basse.
Raphaël Gimignani.
Quand on lui tendait un bidon d'eau, il vous
remerciait.
Quand on faisait une erreur, il vous reprenait avec beaucoup de courtoisie. Luciano Pezzi.
Io ho sempre fatto il Gregario, tant'è vero che io...
J'ai toujours fait le Gregari. Si bien que j'ai terminé avec la Bianchi ou...
Correva.
Coppi courait.
È stato...
C'était...
Una delle giornate più tristi della mia vita.
Un des jours les plus tristes de ma vie. Fiorenzo Magni.
Perché Fausto era un avversario, no?
Parce que Fausto était un adversaire.
Ma amico.
Mais c'était un ami.
Copie, il gagnait une course, il arrivait seul. C'était pas vite, Alfred.
Alfredo Binda.
Ce copie, il parlait presque jamais. Tandis que Bartali, il parlait tout le temps.
Ma come, a me mi sembra sembrato un ragazzo umile.
Il m'a toujours semblé être un garçon humble.
Io a parte tutto lo sapevo molto bene perché era umile.
Et d'ailleurs, moi, je lui ai toujours voulu du bien parce qu'il était humble. Gino Bartali.
Forse perché il suo modo di taciturno.
Il était taciturne.
Mi dava un senso di benevolenza verso di lui.
Son aspect taciturne me donnait une sorte de bienveillance envers lui.
J'étais là, oui.
Charlie Gaulle.
C'était émouvant, bien sûr. C'était vraiment un monsieur.
Hommage à Fausto Coppi. Cette émission a été montée et mixée en juillet et août 2004 dans la cellule 208 de la Maison de la Radio par Yann Parentoen. Enregistrée à partir de mai 1981 avec l'aide de Claude Giovannetti.
Kenavo, Yann, merci à Armel et Gonola Parentoen, Claude Giovannetti, Christian Rosset, Bertrand Durand, Daniel Mermet, Laure Adler, Andrea Cohen, Michel Créis, Bastien Lambert et à la cassette d'Aubervilliers. Le livre Yann Parentoen, l'art de la radio est disponible aux éditions Fonurgianova. Et moi je vous retrouve à la rentrée dans C'est bientôt demain. Bel été à toutes et tous, il est minuit sur France Inter.